France Inter.
3 heures devant mon miroir. Mais j'y suis arrivée, tu vois, je suis jolie. Et alors là, j'espère que ça te plaît, sinon je te colle une de ces raclées.
Parler.
Pourquoi t'as l'air triste?
D'amour.
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
C'est quoi ce bordel avec l'amour, là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus?
Tu souffres? Eh bien moi, je ne souffre plus. Parce qu'il ne faut pas souffrir tous les deux à la fois.
On lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour, là.
Dis-moi juste que tu m'aimes, parce que moi, je n'oserais jamais te le dire la première, j'aurais trop peur que tu crois que c'est un jeu.
Je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive.
Moi aussi, je t'aime.
Sur France Inter, parler d'amour.
Et si on parlait d'amour jusqu'à 15h, juste pour voir, juste pour y croire? Même si l'amour rend aveugle, il permet de changer, de se rencontrer, découvrir des dimensions de soi insoupçonnées. Se reconnaître, s'approcher, aller au-delà des différences, voile après voile, pétale après pétale, le cœur s'ouvre vers d'autres horizons pour vivre une grande transformation. Sébastien va vivre cette aventure inédite et incontrôlable. Acceptera-t-il alors le bouleversement intérieur ? Accueillera-t-il le trésor qu'il ne pouvait imaginer? À chaque histoire son regard, aujourd'hui celui de Marie-Lise Labonté, auteure de « Vers l'amour vrai » et « Le point de rupture » paru chez Albin Michel. Sébastien, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Émilie ?
Oui, je m'en souviens. C'était un barbecue au mois de juin 2004, organisé par quelqu'un avec qui je faisais du théâtre amateur. C'était la première fois où on avait dû se croiser, mais cette fois-là, on s'est vraiment vus et on a vraiment discuté. Et puis, on a vraiment pris plaisir à discuter une bonne partie de l'après-midi. Je crois qu'on s'est trouvé très sympathique ce jour-là.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Voilà une personne sympathique et j'aimerais que la revoir et puis qu'on puisse continuer à étoffer une relation d'amitié à partir de là.
Seulement d'amitié ?
Alors, cette fois-là, oui. et on s'est revus encore dans ce genre d'occasion-là 2 ou 3 fois. Et c'est seulement 3-4 mois plus tard que là, il y a autre chose qui s'est passé. Et donc, avec à peu près le même groupe, il y a une autre personne qui, cette fois-ci, avait créé un séjour dans un gîte, donc un week-end. Parmi le groupe, il y avait des couples et puis il y avait des célibataires, dont Émilie et moi. À un moment, on faisait partie du groupe qui jouait à la vache qui tâche et on a triché ensemble. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est passé en termes de complicité, il y a vraiment quelque chose qui s'est lié. On sent que le week-end se termine, qu'on vient de passer un week-end tous ensemble et puis que quand on est célibataire, on va rentrer chacun chez soi. Donc il y a un peu de... On venait de faire la dernière balade et on rentrait vers les voitures pour aller boire un dernier verre avant de chacun rentrer chez soi. Et à un moment, je me retourne et elle était derrière et elle marchait. Et je voyais qu'elle avait à peu près la même tête que moi. C'était la tête du dimanche soir. De commencer à se projeter en se disant « Bon, je vais finir en plateau télé tout seul chez moi. » Je l'ai attendue, donc elle était juste quelques mètres derrière. Et j'ai mis ma main sur son épaule. Et là, il y a eu vraiment une décharge électrique, quoi. Et donc moi, je m'y attendais pas du tout. Je vais pas dire que j'ai fait comme si de rien n'était, mais j'ai pas dit tiens une décharge électrique, j'ai rien dit. J'ai dit bon voilà, on a commencé à se dire justement on se sent un peu nostalgique, un peu triste, c'est la fin et tout. Donc on a commencé à discuter de choses et d'autres. Bon, mais moi j'avais en parallèle toujours cette histoire de décharge électrique. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis donc on va boire un verre dans un café, donc la 20aine de personnes, on va dire. Et, Puis du coup, elle est assise à côté de moi. Et puis à un moment, moi, je vais fumer à la fenêtre. Et puis elle se rapproche. Et puis nos genoux se touchent. Et je me dis, elle vient fumer aussi. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il y a des fois où quand elle me regarde comme ça, je me dis, mais bon, je m'y attendais vraiment pas, j'avais pas vu venir, et donc je note tout ça, mais en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis quand même, on avait convenu de, justement, pour, on va dire, conjurer le sort, de passer la soirée ensemble, même si c'était devant la télé, mais de la passer à deux plutôt que chacun de son côté. On se retrouvait chez elle et moi je passais chez moi. J'ai mis très longtemps à choisir les cassettes vidéo parce que ça devenait quelque chose de stratégique. Il fallait c'était surtout qu'est-ce qu'elle va penser si je ramène ça. Bon, enfin, on avait prévu vraiment de faire une soirée, pas de film d'Ingmar Bergman, des choses plus légères pour un dimanche soir et pour justement changer les idées. Je sais même plus ce qu'on a regardé. Ça, je m'en souviens pas.
Vous avez regardé Milly, tout simplement.
Ben oui, parce que j'avais le sentiment quand même que c'était plus moi qui sentais des choses qu'elle à ce stade-là, parce que quand je suis arrivé chez elle et que on a commencé à regarder quelle cassette on choisit, elle s'est rapprochée de moi forcément. Enfin, et en fait, moi, dès qu'elle s'approchait, ça recommençait à l'intérieur, ça bougeait dans tous les sens, la décharge électrique était pas loin, donc bon. Mon attention était plus tournée vers Émilie ce soir-là que vers ce qu'on a regardé à la télé.
Alors, comment se termine cette soirée ?
Eh bien, cette soirée, elle se termine en disant, bon, voilà, c'était sympathique, et puis peut-être qu'on peut se revoir de temps en temps. Mais voilà, rien de plus. Et parce qu'entre-temps, on avait quand même découvert qu'à l'époque, on travaillait à 5-10 minutes l'un de l'autre. Et que l'un comme l'autre, on n'avait pas de cantine professionnelle. Donc du coup, on devait tous les deux aller chercher à manger ailleurs. Et donc, voilà. Et donc, dès le lendemain midi, on a mangé ensemble. Puisqu'elle a dit oui, ça peut être un jour dans la semaine. J'ai dit, demain, par exemple. Donc, donc elle a dit oui.
Qu'est-ce qui vous plaisait à ce moment-là, chez Émilie, à ce moment-là de la relation?
Ses yeux. Ça, c'est forcément ce qui m'a accroché au début. Son énergie, son humour. Enfin voilà, je voyais que du positif, même si je savais bien qu'elle vivait aussi des choses. Tout n'était pas rose dans sa vie, mais pour moi, je voyais vraiment quelque chose de un soleil, quoi. C'était de l'énergie, c'était de la lumière, c'était de la bonne humeur.
C'était une évidence.
Oui, oui. C'est vraiment, je crois que je l'avais vraiment vécu comme ça. Mais voilà, donc et puis on a continué à se dire, tiens, peut-être qu'on peut se revoir. Enfin, on s'appelle quand on a envie. Je crois qu'elle m'a rappelé parce qu'elle allait voir un concert le mercredi soir qui pouvait m'intéresser. À ce stade-là, je savais que, en tout cas, je voulais qu'à un moment, on aille plus loin.
Vous sentiez qu'elle était attirée également ou pas ?
Non. Enfin, je dirais pas non au sens. Je voyais qu'elle avait, qu'elle était tout à fait partante pour qu'on se voit, pour que. Mais je n'aurais pas su dire à l'époque si elle était attirée ou si pour elle c'était des bons moments mais sans plus quoi.
Alors Sébastien, vous vous décidez à déclarer votre flamme, comment ça se passe?
Alors on se voit pas au concert mais on va boire un verre puis on se reverra peut-être on se revoit le lendemain. Donc moi j'arrive, là on est au vendredi soir, on s'est vu en plus du week-end, on s'est vu 3 fois dans la semaine, on se voit presque tous les jours. Je me dis, bon, là, j'ai besoin au moins qu'on commence à en parler. Après, où ça va nous mener, si elle répond oui, non, peut-être, à plus tard, pourquoi pas, mais au moins il faut. Moi, j'avais besoin de donner un signe. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'avais cette fameuse session de théâtre amateur le vendredi soir, donc c'est en sortant que je l'appelle, et puis elle était. Dans un bar. Et puis donc j'arrive là-bas, on discute, et au moment de se dire au revoir, elle. Si tu veux, Sébastien, demain, j'ai prévu d'aller boire un café en terrasse avec telle copine que je connaissais. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Bon, et donc là, à partir de là, pour moi, là, c'est le créneau que j'ai choisi. J'ai dit, ben, si tu veux, mais moi, si on se revoit maintenant, j'ai besoin de te dire. Et donc, je lui explique que depuis donc le dimanche précédent, ben, je pense qu'à elle.
Comment elle réagit ?
Je dois avouer que visiblement, elle ne s'y attendait pas.
Pourquoi ?
Ben, en fait, parce que ce que je lui ai dit concrètement, c'est que ben, je pense qu'à elle. Et j'ai d'abord commencé, au début de la semaine, à regarder les hommes et à voir si j'avais encore du désir. Et en fait, je pensais qu'à Émilie, quoi. Et qu'Émilie, elle savait que, au moment où je lui dis ça, elle savait que les 15 années qui ont précédé, moi, je considérais que j'étais homosexuel et que j'avais une vie homosexuelle. Et c'était quelque chose de déclaré, c'était quelque chose qui était connu dans le groupe, justement, par l'intermédiaire duquel on s'est rencontrés. Donc, c'était pas comme si je le cachais et que, du coup, la question pouvait se poser.
Vous assumiez complètement votre homosexualité.
Ouais, je crois qu'on peut le dire, oui. Et vraiment, enfin, et d'ailleurs, ce fameux week-end, dans les discussions qu'on avait eues et dans les jours qui ont suivi quand on discutait, mais on a discuté des mecs, quoi. On parlait des mecs avec Émilie sur ce qu'on vivait chacun dans nos rencontres, quoi. Moi, je considère que pendant cette fameuse semaine, elle y a mis quand même du sien. Elle dit que non, pas du tout, elle n'a rien vu venir. Et que, bon, soit. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que pendant ces jours-là, elle s'était dit, tiens, quand même, Sébastien, c'est dommage qu'il soit homo, parce que, il ne serait pas homo, ça, on pourrait peut-être essayer quelque chose, quoi. En attendant, on passe des bons moments, prenons-les, quoi. Concrètement, ce que je lui ai dit ce vendredi soir-là, c'était... Ben voilà, moi j'ai essayé, mais en fait je regarde plus les hommes. Et puis je me suis dit, ben, peut-être que je ne sais pas comment ça a pu se faire, mais peut-être que maintenant je vais regarder les femmes. Et en fait non, je regarde pas les femmes, parce que quand je regarde les femmes, je dis oui, bon, ben, je ne les regarde pas vraiment différemment d'avant. Par contre, quand je vois Émilie, là il y a quelque chose qui est complètement différent de tout ce que j'ai vécu. Évidemment, je souhaite qu'on continue à se voir. Évidemment, toi tu vois comment tu réagis et ce que tu ressens, ce que t'en penses. Si on continue à se voir, que ça soit en connaissance de cause, parce que sinon il va y avoir un décalage qui moi me convient pas, enfin qui va être dur à vivre pour moi, mais qui du coup va fausser un peu les moments qu'on va vivre ensemble. On va pas les vivre du même point de vue, avec les mêmes attendus. Donc voilà. Elle a réfléchi, peut-être 20 à 30 secondes, on va dire. Et puis on s'est embrassés. Au moment où on a passé la porte du café, on avait prévu chacun de rentrer chez soi, puis on est tous les deux rentrés chez elle, en fait, ce soir-là. You really got me in a spin, head over heels is the state I'm in. Do you know how you make me feel? Soft as silk and sharp as steel, so come on. Yeah, give in to love, come on. Yeah, give in to love. One step forward, one step back. You're on a hesitation track. Your heart says yes, but your mind says no. Why don't you just let go? Come on.
Come on, yeah, give in to love.
pour moi, vraiment, il y a cette notion, effectivement, d'évidence qui était là très vite.
Même si c'était une femme.
Et oui, parce que c'est comme ça vraiment que je le vivais, c'est que je suis tombé amoureux d'elle, et après, je me suis rendu compte que c'était une femme.
Tu éprouves des sentiments pour elle?
Mais je sais pas. Je l'adore, cette fille. Elle m'émeut, et puis... Même physiquement, elle me plaît, ouais.
Attends, tu vas pas me dire que tu serais un hétéro refoulé?
C'est vraiment la personne d'Émilie qui m'a touché, que je me suis pris en plein cœur.
Au-delà du sexe.
Exactement. Pour moi, le cap principal qui était de dire, eh ben, oui, je le tente. C'est pas parce que Émilie est une femme que ça doit me poser problème. Je pense que ça, ce cap-là, en une semaine, il était passé. Enfin, moi, avant, on m'aurait dit ça, j'aurais levé les yeux au ciel, j'aurais dit, oui, encore des gens qui essayent de redresser, je ne sais quoi. Bon.
Parce que vous étiez militant, je crois, non, en plus. Hein.
Un peu, oui. Disons que, en fait, moi, dans ma construction de vie, il y a plus d'une dizaine d'années de participation à des associations, que ce soit pour les droits ou pour la lutte contre le sida, quoi. J'étais arrivé à un stade où, quelques mois plus tôt, je m'étais dit, là, j'en ai vraiment marre de ces relations courtes, pas seulement parce qu'elles sont courtes, mais aussi sur la manière dont ça se passe. Maintenant, j'en ai marre et j'ai envie de positif pour moi. Je me suis dit, bah là, voilà. Je suis tombé amoureux d'Émilie. Je me suis dit, ah, c'est une femme. Qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas non plus le cacher. Ça remettait quand même en cause la manière dont je vivais jusqu'à ce moment-là et depuis le lycée. Donc,
c'est long.
Voilà. Par rapport à d'autres gens qui peuvent faire le chemin inverse ou peu importe. Mais en tout cas, moi, ça, je m'étais construit avec une sexualité homosexuelle et des relations homosexuelles. Et donc là, j'arrivais à une situation où voilà, j'allais avoir 30 ans et tout d'un coup, Émilie arrive, quoi. Et en une semaine, tout ce que j'ai vu, perçu, ressenti, ça me donne envie. Je vois que du positif, pas aveuglément, mais je vois plein de choses positives qui peuvent arriver avec elle. Je ne vais pas m'empêcher d'être heureux sous prétexte qu'elle est une femme. Ça serait trop bête. Clairement... Je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé la personne avec qui j'allais pouvoir vivre une relation plus longue que d'habitude. Mais en attendant, ben je l'ai accepté en tant que tel. Finalement, vu mon parcours et comment je m'étais construit, j'ai dû apprendre à ce que c'était que la vie hétérosexuelle, en fait.
Qu'est-ce qui change?
Ça peut paraître anecdotique, mais on a eu des discussions, on va dire peut-être pendant le premier mois, parce que ça me posait problème de lui tenir la main dans la rue, parce que je venais de passer 15 ans à pas pouvoir tenir la main dans la rue de la personne que j'aimais quand il y en avait une dans ma vie. Là, ça rentrait en conflit avec mon parcours militant, quoi. C'est que des choses pour lesquelles je m'étais battu.
Vous causez problème à ce moment-là,
ouais. Ben oui, parce que là, tout d'un coup, moi, ça ne me concernait plus, ces problèmes-là, mais ils existaient toujours. Et en même temps, enfin voilà, donc tout se mélangeait un peu là-dessus.
Et votre entourage, Sébastien, comment prend-il cette nouvelle relation? Vous avez dû faire un coming out à l'envers, non?
Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
Attention, c'est chaud. Encore une autre?
Je n'ai pas le souvenir que tu nous aies déjà parlé de Fina.
Mais c'est normal parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps. Quelques semaines, hein, à peine.
Et Philippe, comment il va?
Bien, enfin, je crois.
Comment ça, je crois?
Philippe et moi, c'est fini. Voilà, on s'est séparés.
Mon Dieu, quel dommage.
Mais j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Fina et moi, on va se marier dans 15 jours. Alors j'espère que vous êtes tous libres parce qu'on va faire une petite fête chez moi.
Mais attends, Manu, on a mis 15 ans à digérer ton homosexualité. C'est pas pour apprendre aujourd'hui que tu vas te marier.
Le premier coming out a été difficile avec mes parents. Bon, on était arrivé à statu quo. Bon, on en parlait un peu, mais pas trop. Et puis, bon, bah voilà, on n'approfondissait pas les choses. Enfin, pour moi, on était dans une situation qui permettait un équilibre. Et puis là, je rajoute du déséquilibre, quoi. Alors, ma mère avait bien vu, évidemment, qu'il se passait quelque chose dans ma vie. Donc, quand je lui dis qu'il y a quelqu'un dans ma vie, elle me dit qu'elle le sait et elle me dit comment il s'appelle. Et je lui dis Émilie. Ben forcément, moi j'ai eu à peine une semaine, même pas, pour le voir venir. Eux, ils ne l'avaient pas vu venir au premier coming out, et là, ils ne le voyaient pas du tout venir, évidemment. Enfin, je comprends tout à fait que ça soit compliqué.
Oui, vous ne saviez pas justement où vous alliez, quoi.
Voilà, ouais. Je dirais que je crois qu'elle a rencontré mes parents 3 mois plus tard, et ça s'est tout de suite bien passé, et voilà. Donc, avec Émilie, on avait chacun eu notre vie, on va dire... bien rempli, même s'il n'y avait pas que de la joie. Tout ce qui était représentation du couple à l'extérieur du couple, on ne voulait pas aller trop vite, parce qu'on savait... Mm-hmm. On pourrait dire encore moins que dans un couple hétéro, pour des gens qui avaient toujours vécu sur ce mode-là, on savait encore moins comment ça allait se passer. Pendant quelques jours, ça m'a un peu posé problème, en me disant, bon, ben voilà, là, c'est des choses que j'ai eu à négocier par rapport à mon parcours avant Émilie, quoi.
Et vous rencontrez, vous, les parents d'Émilie ?
J'ai rencontré sa mère quelques mois plus tard. Moi, de toute façon, pour moi, les choses étaient claires. Dans l'entourage qui était lié à mon parcours homosexuel, là, il y a eu une différente réaction. Il y a entre autres quelqu'un qui était assez proche à l'époque et qui a éclaté de rire et qui a raccroché au téléphone. Enfin, j'ai eu au téléphone à ce moment-là. Et il a dit, non, là, je peux plus, on en reparlera une autre fois, mais là, c'est trop. Globalement, je dirais, au moment où j'ai fait mon coming out homosexuel, les gens qui faisaient partie de ma vie, c'est des gens qui acceptaient. Et donc, à partir de là, au moment où je dis, ben voilà, Émilie est entrée dans ma vie, si les gens acceptent pas, ben, c'est pareil dans l'autre sens. Enfin, je leur demande pas de devenir les meilleurs amis avec Émilie, mais qu'ils acceptent la situation. De ce côté-là, il y a eu pas mal de surprises, quelques discussions, mais ça n'a jamais posé problème, quoi. Et donc, le dernier entourage, je dirais, où là, il y a eu un petit peu de jeu quand même, c'était l'entourage, entre autres, de ce groupe autour d'un groupe de théâtre, quoi. Enfin, que ça soit Émilie ou moi, on les voyait régulièrement. Puis, de temps en temps, il y avait toujours des soirées où il y avait tout le monde. Donc, voilà. Et puis, il y a une soirée, donc... On a attendu un peu. Elle a quand même dû le dire à un ou deux de ce groupe-là avec qui elle était proche pour en parler, parce qu'elle avait besoin de partager. Et puis aussi avec des gens avec qui me connaissaient, ça lui permettait d'échanger là-dessus. Et puis il y a eu une fameuse soirée où on a dit, bon, à cette soirée-là, officiellement, on vient en couple, quoi. Et donc, il y avait quand même pas mal de surprises, mais au final, plutôt des sourires, quoi. Et même une personne qui n'y a pas cru, quand Émilie lui a dit « Ben oui, on est ensemble », elle est venue me chercher et puis elle m'a dit « Ben, on peut s'embrasser pour... » bien sûr, tant mieux, encore un baiser de plus, formidable. Et donc on s'est embrassé devant lui et il ne nous croyait toujours pas. Maintenant, il a compris. Je sais plutôt par personne interposée qu'il y a des gens qui se sont dit, mais un an après, qui disaient à leur meilleure amie qui leur en avait parlé, mais alors ils sont, ça y est, c'est fini ou, non, pourquoi ça serait fini? Bah quand même, Sébastien avec une femme, bah oui, mais il est amoureux, ils sont amoureux, enfin donc la question se pose plus, quoi. Enfin voilà.
France Inter. Parler d'amour.
Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes, les pluies vont être diluviennes. Sens-tu le parfum que le vent ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique quand se déroule le générique? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes.
Comment vit-elle ça?
Alors pour elle, il y avait beaucoup de questions. C'est sûr qu'elle, elle a entendu, je pense même plusieurs personnes qui lui ont dit « Ah oui, oui, c'est déjà arrivé, mais bon, t'accroches pas trop parce que ça va pas durer. » Donc ça, elle a dû l'entendre un certain nombre de fois. Ce qui l'a beaucoup aidé, bien sûr. Hein. C'était, enfin bref, au moment où elle se pose beaucoup de questions, moi je m'en pose pas, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours cette histoire d'évidence. Je suis tombé amoureux d'elle et après je me suis rendu compte qu'elle était une femme. Et, elle estime qu'elle n'est pas d'un naturel jalouse. Mais elle disait, bon là, ça fait beaucoup quand même parce qu'il y a deux fois plus de potentiel. Quoi. Donc,
et les femmes et les hommes.
Voilà. Donc ça, ça lui posait quand même question. Là encore, ce n'est pas la première chose à laquelle elle pensait, mais bon, ça rajoutait... Puis voilà, je pense qu'elle a eu pendant longtemps, la question c'était, mais encore plus que si elle avait rencontré quelqu'un d'autre, c'était, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'investir, etc. quoi. On s'est impliqués tous les deux et du fait de nos tempéraments, on a vraiment construit un couple. Enfin, au bout de 4 mois, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas et que pour ça, on devait travailler chacun de notre côté pour qu'ensemble, ça fonctionne. Quoi. La base, c'était d'abord qu'on était amoureux, mais qu'on est amoureux. Mais...
L'amour ne suffit pas, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. C'est qu'à partir de cette base-là, on arrive chacun avec... nos bagages et il y a du tri à faire. Donc là, ça fait 5 ans et demi qu'on vit cette histoire. Émilie comme moi, si on nous avait dit ça il y a 5 ans et demi, on aurait dit oui. Ah bon ? Voilà, 5 ans et demi, c'est parce qu'on a su aussi construire une relation, la construire ensemble. Pas, enfin, vraiment, pour moi, c'est pas se contenter de dire ah ben, la personne réagit comme ça, donc bon, ben, faut faire avec. Ben, ça dépend. Ça se discute, en tout cas. Par contre... c'est fatigant. Si on veut qu'il y ait encore 5 ans et demi à nouveau, bah, il faut qu'on garde la capacité à discuter des problèmes qui se posent. Forcément, chacun évolue, la vie évolue, la cellule familiale évolue. Donc, voilà.
L'amour n'est pas un long fleuve tranquille, c'est ça?
Exactement, exactement. Je passe pas mal d'étapes d'un coup, hein, mais il y a à quelques jours près, là, il y a 1 an, il y a notre fils qui est né. On en était très loin de ce genre d'idée quand on s'est rencontrés. Forcément, là, il y a besoin de discuter et de dialoguer dans le couple, sinon ça pose problème. Quoi. On continue à discuter, à mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on puisse encore être là dans 5 ans et encore après pour continuer à dire qu'on est toujours amoureux. C'est une occasion formidable d'être heureux. Mais pour ça, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et les moyens, c'est parler de ce qu'on ressent et comment faire pour que chacun vive les choses au mieux. Quoi.
Sébastien, qu'est-ce qui a changé profondément dans votre vision de l'amour depuis que vous connaissez Émilie? Pourquoi vous riez?
Alors, maintenant, j'ai une expérience plus concrète avec une relation un peu plus longue et c'est très clair pour moi. Pour qu'il existe, il faut qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait un déclic, faut qu'il y ait, on l'appelle comme on veut, hein, faut qu'il y ait une décharge électrique, enfin tout ce qu'on veut. Elle va s'éteindre si on ne fait rien. Et donc, moi, il me semble que, comme dans n'importe quel couple, il y a des moments où on peut se poser des questions sur, mais finalement, où est-ce qu'on en est? Pourquoi on est là à deux? Est-ce que ça a encore un sens? Pas non plus passer à des questions trop existentielles, mais pour moi, ça peut venir. Et moi, il y a toujours eu, et je pense pour Émilie aussi, sinon on ne serait plus ensemble, au bout du bout, il y a un moment où on se dit, mais non, on a envie que ça continue. Donc, ma vision de l'amour, et ce qui a changé, c'est de faire l'expérience d'une relation longue, et pour moi, l'amour, moi, je sais que ce qui me correspond mieux, c'est dans une relation où on prend le temps et on se donne les moyens de qu'elle dure et d'explorer avec le temps ce qu'on peut vivre ensemble.
Sébastien, grâce à Émilie, qu'est-ce que vous avez découvert chez vous que vous ne soupçonniez même pas avant?
Je ne vais pas dire que je me connaissais tellement bien que j'ai rien découvert quand même.
On va dire que vous êtes prétentieux.
Non, mais justement, là j'avoue que la question me surprend un peu. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de réponses, j'ai appris plein de choses, mais peut-être qu'aujourd'hui, si pour moi maintenant je les ai apprises, peut-être que j'y pense plus. Le fait que l'autre est un autre et que donc, par définition, il est différent, qu'il va réagir différemment, qu'il va vivre les choses différemment. Évidemment, je le savais avant, mais au quotidien, c'est pas pareil. On peut le voir sur le papier, comme dirait l'autre, on peut lire une encyclopédie entière pour apprendre à nager, mais une fois qu'on va dans la piscine, c'est pas pareil. Et là, accepter l'autre au quotidien, accepter l'autre avec qui on vit, avec qui on partage... vraiment la vie au quotidien, pour moi, ça met la barre plus haut que d'accepter les gens qu'on croise et où à un moment, on peut toujours fermer la porte et être tranquille chez soi. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui n'est pas fini puisque j'accepte pas encore tout. Pour moi, il faut commencer par accepter intérieurement et puis après, on voit ce qu'on en fait. Mais si on n'accepte pas une réaction, déjà, on n'arrivera pas à passer à l'étape suivante, qui est de pouvoir en parler et de pouvoir dire à la personne, cette réaction-là, elle me blesse ou elle me touche. Ça continue, parce qu'il y a toujours des moments... Et donc j'ai découvert un champ des possibles infini. Voilà.
Sébastien, pourquoi vous avez eu envie de témoigner?
C'est d'abord en écoutant votre émission et d'autres témoignages qui m'ont touché. Aujourd'hui, je vous parle. Ça fait 5 ans et demi qu'on vit ensemble avec Émilie. Il y a notre fils qui est là. On verra bien ce qui se passe, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a il y a quand même une étape qui est passée au sens... j'aurais pas pu en parler il y a 3 ans, par exemple. Là, pour moi, je peux dire, quoi qu'il arrive, on a vécu quelque chose ensemble de beau. On s'est toujours dit, si jamais malheureusement ça devait s'arrêter, qu'on ne rajoute pas de douleur et de souffrance et qu'on arrête les choses calmement autant que faire se peut. De toute façon, aujourd'hui, on n'est pas dans cette optique-là, mais ce que je veux dire, c'est que l'été dernier, en fait, notre fils venait de naître et j'écoutais les émissions et je me suis dit, mais oui, moi, j'ai aussi quelque chose à apporter, j'ai un témoignage à apporter. Et très modestement, s'il y a une seule chose moi, que je retiens de tout ça, c'est que tout est possible. Restons ouverts et ne nous fixons pas des barrières en amour. Ça serait dommage parce qu'on peut passer à côté de choses formidables.
Sébastien, normalement, Émilie aurait dû venir témoigner, mais votre fils a un petit souci de santé. Elle vous a dit quelque chose en particulier pour cette émission ?
La seule chose qu'elle m'a dite, c'est que il y a 5 ans et demi, elle s'attendait vraiment pas à ce qu'aujourd'hui elle garde notre fils malade et en s'occupant de la cafetière qui était à détartrer pendant qu'il faisait sa sieste. Donc, bon, en l'occurrence, c'est parce que je suis pas à la maison, sinon moi aussi je peux détartrer la cafetière, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que ce qu'elle a voulu dire par là aussi, c'est que elle aussi, encore aujourd'hui, elle se dit bon. On est content d'en être là aujourd'hui, mais ça s'est vraiment construit au fur et à mesure et on ne savait pas du tout où on allait au début. Et c'est possible et on espère bien que ça va continuer. Moi, je me projette avec Amélie dans l'avenir jusqu'au bout. Et puis voilà, ce n'est pas forcément ce qui arrivera. Je sais bien que la vie, il y a toujours des surprises en tout cas, mais aujourd'hui...
C'est votre envie.
Voilà, c'est mon envie et j'ai toujours envie de ça. L'évidence est toujours là.
Nos voitures de course, c'est que des caddies.
Trop cher pour nos bourses, les indies.
Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines. On est ni Carla, ni Bruni.
Télé, c'est des surgelés.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste.
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures.
On n'est pas même vu de dos.
C'est le tour de France, nos vacances.
Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance.
On n'a pas le souci des paparazzis. Quand Donald nous trompe au crazy.
Non, seul cliché X. Les radios les fixent, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais,
mais toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux.
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. Paul et Médou,
ouais.
Suffisent à nos jeux de poumons.
Oh, y a pas que les mains dans l'amour.
Chacun sa place, Vendôme.
Remballez tous vos rites, Balmoral et Biarritz. C'est pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
Sur France Inter, parler d'amour.
Marie-Lise Labonté, bonjour.
Bonjour Marie-Pierre.
Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation pour parler d'amour. Alors vous êtes canadienne, psychothérapeute et auteure de Vers l'amour vrai et Le point de rupture, deux livres qui sont parus chez Albin Michel. Alors en tant que thérapeute, quel regard portez-vous sur l'histoire de Sébastien et d'Émilie ?
C'est une histoire qui porte une conscience de l'amour. Qui porte aussi, Sébastien, dans son expression, exprime bien que cet amour qu'il a, il n'est pas aveugle, dans le sens qu'il voit les côtés plus sombres aussi de sa compagne. Et en même temps, l'amour est toujours présent, la flamme, le déclic. Et ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que tous les deux ensemble cultivent cet amour comme un jardin précieux. Et ils ne prennent pas pour acquis l'amour qu'ils ont rencontré au tout début de leur relation.
Quel est l'important justement d'être dans cette conscience ? Quels sont les côtés positifs ? Parce que c'est vrai que c'est fatigant, comme il a dit. À un moment donné, c'est toujours de se remettre en question et de regarder ce qui ne va pas. Ou...
C'est vital, je pense, pour une relation de couple. Parce que beaucoup de couples peuvent s'endormir dans le confort que peut apporter un amour qui va tranquillement... s'amenuiser parce que justement les partenaires prennent pas soin de la flamme et ne sont pas créateurs dans leur amour. Alors eux, ils semblent créateurs dans leur amour d'après ce que Sébastien exprime. C'est un peu triste qu'on n'ait pas pu entendre Émilie.
Oui, parce que justement, comme le disait Sébastien, elle devait être là. Je l'ai eu au téléphone.
Ah bon ?
Oui. D'accord. Et leur bébé étant souffrant, elle a dû rester. Auprès de son enfant.
Alors donc, d'après ce que Sébastien décrit de leur relation, c'est quelque chose qu'ensemble, ils cultivent.
Des deux côtés, hein,
oui,
tous les deux.
Justement, en travaillant aussi, en explorant chacun ce que cet amour leur fait vivre. Donc, on a deux individus qui explorent les dimensions de l'amour en eux, parce que, comme j'ai dit dans mon livre, l'amour initie et l'amour nous pousse vers nos plus grands retranchements. C'est ce qu'ils semblent rencontrer. Donc, ils font une exploration personnelle dans cet environnement amoureux, ce qui est magnifique. Et c'est sûr que c'est exigeant, justement. Il dit que c'est fatigant parce qu'ils sont en train... C'est quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas exploré en eux avant. Et là, ils explorent maintenant en eux certaines dimensions d'eux-mêmes qui est réveillée par l'expérience de vivre à deux, de rencontrer l'autre, accueillir l'autre. C'est comme une forme de petite thérapie au quotidien, le couple. Hein?
Alors justement, Sébastien dit à un moment qu'il en avait marre de vivre ces histoires sans lendemain, qu'il en avait marre de souffrir. Est-ce que c'est justement par cette prise de conscience du besoin de positif, de besoin de bonheur, qui permet à Sébastien de rencontrer Émilie à ce moment-là de sa vie ?
Peut-être. Ouais. En tout cas, il semblait justement déjà dans une prise de conscience qu'il était insatisfait de ce qu'il vivait. Donc ça, c'est un point de départ très important. Déjà, il reconnaissait qu'il y avait une limite dans son expérience et par le fait même, il était en train de choisir autre chose. Alors, jusqu'à quel point inconsciemment il a appelé autre chose, ça c'est délicat, j'ose pas m'avancer là-dessus. Mais nous pouvons quand même observer que oui, il vivait une insatisfaction, donc il remettait en question finalement sa façon d'aimer ou de vivre ce qu'il vivait dans les relations amoureuses.
Oui, parce qu'il dit qu'en fait, il est tombé d'abord amoureux d'Émilie et après, il s'est rendu compte que c'était une femme.
Oui,
comment expliquer ça ?
Ah, ben, est-ce que ça c'est, ouais. C'est la magie de l'amour,
l'amour,
exactement,
oui.
Dans le sens que ce n'est pas définissable. Qu'est-ce qui fait que deux personnes se reconnaissent ? Enfin, lui, il semble avoir reconnu. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est par ses yeux, et on dit souvent que l'âme s'exprime à travers le regard. Donc, il a vu peut-être une dimension vibratoire, même énergétique. Il disait, c'était électrique, il y avait une énergie, il y avait une attraction d'elle, mais elle, dans un corps de femme, mais c'est pas ça qu'il a vu en premier. Peut-être aussi à cause de son passé, de toute son histoire, qui faisait que d'emblée, il n'était pas attiré par les femmes, d'emblée. Donc, il a connu une vibration qui s'appelle Émilie. C'est magnifique.
Euh, Marie-Lise, justement, quand on change comme ça d'identité sexuelle, qu'est-ce qui est important de comprendre à ce moment-là ?
Ce sont des passages quand même très importants dans une vie quand l'amour nous amène à aimer quelqu'un soit du même sexe que nous et on n'était pas du tout habitué à ça. On était habitué, par exemple, pour une femme d'être en relation avec un homme et soudainement, la femme rencontre l'amour à travers une autre femme. Donc, c'est comme si l'inconscient de la personne, de l'individu, est prêt à explorer une autre dimension du soi, de l'être, de la personnalité, et que l'amour porte cette exploration, cette recherche. Et la même chose pour un homme qui a toujours aimé les femmes et soudainement se met à découvrir l'amour avec un homme. Alors évidemment, ça amène des grands bouleversements intérieurs, extérieurs, dans l'environnement. Mais ce sont des choses possibles parce que nous sommes hommes et femmes intérieurement. Nous avons cette possibilité d'explorer les deux dimensions. Donc, quand l'amour amène un changement d'identité, c'est sûr que c'est un déconditionnement pour quelque chose de plus vaste en nous. Et c'est un passage extraordinaire, vraiment extraordinaire.
Là, Sébastien a accueilli tout de suite Émilie.
Exactement. Et il était conscient qu'il ne voulait pas que les limites de son ancienne identité ou
oui,
son identité qu'il avait vécue viennent interférer. Donc, déjà en partant, il agit. Quelqu'un d'autre aurait pu se fermer et dire « ce n'est pas possible » et arrêter le mouvement, arrêter le déclic, le juger et arrêter, ne pas le reconnaître. Et c'est malheureux parce que quand on explore les dimensions d'aimer dans une autre forme d'identité sexuelle, on explore une vastitude à l'intérieur de soi.
Alors, pour revenir aussi sur un autre de vos livres, Le Point de Rupture, vous parlez dans ce livre de tous les chocs de la vie, Marie-Lise, donc un décès, une séparation, un licenciement. Alors, est-ce qu'on peut parler, par exemple, avec Sébastien de Point de Rupture ? Parce qu'il a vraiment eu un changement profond dans sa vie.
Ah, totalement.
Et faire face à son entourage, et ça, c'est très difficile aussi. Il faut du courage pour en arriver là.
Oui, vraiment, Sébastien a été initié par l'amour, hein, en ce sens que de vivre une relation amoureuse, enfin, pour Sébastien, ça a été un changement, non seulement du conditionnement amoureux qu'il vivait avant, mais un changement d'identité amoureuse, ce qui est énorme. Et c'est magnifique. Je crois qu'il était prêt, d'après ce qu'il disait, non pas à un changement d'identité amoureuse, c'est-à-dire d'aller vers les femmes, non pas à ce niveau-là, mais il était prêt à explorer l'amour différemment. Lorsque quelqu'un explore aimer, vit ce forme de déclic amoureux, ça amène toujours une transformation. Nous ne pouvons pas être pareils. Et beaucoup de gens refusent ça. Ils vont refuser le déclic amoureux, l'amour, parce qu'ils ne veulent pas que l'amour les change. Mais l'amour change quelqu'un, dans le sens que ça l'amène à se rencontrer et ça amène un changement même du système autour. Beaucoup de gens vont dire « Ah non, je ne peux pas imaginer que tu étais en couple avec cette personne. » Ou alors encore plus pour Sébastien, parce que c'était vraiment un changement de sexe, donc une identité amoureuse qu'il transformait. Mais souvent, l'amour va amener quelqu'un à aimer l'autre, le partenaire, mais jamais il aurait pu imaginer aimer quelqu'un qui ne ressemble pas au prince charmant ou à la princesse charmante qu'il avait cultivée toute sa vie. Donc, c'est là où l'amour initie.
Marie-Lise Labonté, comment définissez-vous l'amour qui relie Sébastien et Émilie ?
C'est un amour, selon l'écoute là, que je viens de vivre, c'est un amour créateur. Et Sébastien l'exprime, c'est une recherche quasi au quotidien. En même temps, il y a un désir de créer quelque chose dans la continuité et dans le quotidien, et même dans cette vision d'un futur, c'est un amour qui est créateur. Donc, tous les deux semblent se laisser pénétrer par l'amour et que l'amour les amène dans un changement personnel et dans une création du bonheur ensemble, en accueillant l'autre. et cultiver cet amour. Donc ces créateurs, tous les deux, ne semblent pas endormis dans l'amour. Alors, ils sont éveillés et c'est magnifique.
On se rend bien compte en écoutant Sébastien qu'il a une certaine souplesse. Comment justement on peut en arriver à ce que sa personnalité soit plus souple pour rentrer vraiment dans cette conscience du travail au quotidien dans l'amour?
Justement, en aimant.
Tout simplement.
Dans le sens que l'amour est toujours présent. Et c'est, évidemment, c'est cette flamme qui c'est important de cultiver, mais de ne pas tenter de fixer soi-même ou l'autre dans des cases. Et les couples qui ont évolué dans la vie ensemble, ce sont des gens qui ont refusé de se mettre dans des cases. Ou chaque fois qu'ils ont tenté de se mettre, « Ah, ça y est, j'ai cerné mon partenaire, ça y est, je le cerne, donc j'essaie de le contrôler. » Ou « Je me suis cernée et j'essaie de me contrôler dans l'amour. » Eh bien, l'amour arrive et initie les partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des événements du quotidien qui fait que, oups, là où je pensais avoir le contrôle, je viens de le perdre. Et c'est magnifique. Alors, Sébastien semble vivre très bien cela, quoiqu'il dise que c'est un peu fatigant. Et moi, je lui souhaite vraiment de pouvoir, je leur souhaite tous les deux, de temps en temps, se reposer dans l'amour.
On se repose comment dans l'amour?
En se laissant porter par l'amour, en s'y abandonnant, en le savourant dans le contact, en donnant au couple des temps juste d'être, et non pas d'être dans le faire, mais d'être ensemble, en silence, en contemplation, et évidemment, bon, avec l'enfant aussi, là, qui est venu aussi, qui amène beaucoup de créativité, hein, un enfant, l'arrivée d'un enfant, ça réveille un couple.
Justement, avec un enfant, c'est plus difficile quelquefois
de trouver ces moments. Que, oui, parce que là, le couple qui était, disons, dans une relation à deux, devient un triangle. Alors, au début, l'enfant est avec la mère beaucoup. Le père est toujours présent. Mais l'enfant entraîne le couple à élargir l'amour et de vivre maintenant une relation à trois. Et vous connaissez le triangle amoureux, j'en parle dans mon livre. Le triangle amoureux fait que c'est plus facile de devenir victime, persécuteur, sauveur. Enfin, là, il y a tous les jeux du conditionnement amoureux qui peut venir de façon plus présente, ou même le conditionnement d'être un bon père, une bonne mère. Dès qu'un enfant rentre dans un couple, on se retrouve avec les archétypes des parents, l'archétype parental, social, culturel, qui vient, je dirais, titiller les parents qui accueillent un petit être magnifique.
Puisque Sébastien et Émilie ont envie que ça dure, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour la suite?
Ben, je crois qu'ils sont déjà dans une expérience magnifique où j'ai l'impression que ça va durer, enfin, dans le sens que ils sont dans une conscience de l'amour. Et pour eux, ils sont prêts à apprendre. C'est ça qui est important. Enfin, ils ne semblent pas rigides. Et bravo, donc tant mieux pour cet enfant qui naît dans ce couple. Il me semble que c'est bien parti.
Merci beaucoup.
Merci.
Quel est le plus beau cadeau que vous ait fait Émilie?
C'est que le bonheur entre enfin dans ma vie et que, et voilà, que j'apprenne à être heureux avec quelqu'un et à vivre une vie où l'amour est présent. Et ça, c'est un cadeau inestimable, quoi. Et je la remercie tous les jours.
Merci à Sébastien et à Émilie d'avoir partagé avec nous leur belle histoire. À lire cet été de Marie-Lise Labonté, Vers l'amour vrai et le point de rupture, paru chez Albin Michel. Parler d'amour était réalisé amoureusement par Simone Depoux. Merci à Emmanuel Fournier pour ses illustrations cinématographiques. Parler d'amour, une émission enchantée par Monsieur Djoub et mixée par Michel Thomas et Arnaud Chapat. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission et les autres sur France Inter, Parler d'amour. Et si vous aussi, vous avez envie de témoigner, laissez-moi un petit mot, un petit mail. Alors je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire et bonne chance à tous les amoureux et aux futurs amoureux.